radio du festival. Bang, 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 bang,
bang, bang, bang, bang, bang. Avec ondes courtes, s'il vous plaît.
Au festival Bandy, sur Radio Bandy, et on vient d'écouter De rue et d'amour, un documentaire sonore de Julien Baruguel, et monté par Guizane Humeau, et les deux sont là avec nous pour en parler. Alors peut-être qu'on peut commencer par Julien, revenir un peu sur la genèse de ce projet. Comment t'es arrivé à rencontrer Patrick? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de départ de ce projet?
Ah ouais, c'est bon là. Ouais. Donc au départ, je travaillais sur un projet de documentaire sonore à la médiathèque, plus précisément sur le pôle actualité de la médiathèque, qui est le rez-de-chaussée quand on rentre sur la droite. Et dans cet espace, il y a beaucoup de gens qui viennent quotidiennement parce qu'ils n'ont pas forcément d'autres endroits où aller la journée, donc pour diverses raisons. Donc je passais pas mal de temps dans cet espace-là à travailler sur un projet qui n'était pas celui qu'on vient d'entendre. Et j'allais voir les gens qui se trouvaient dans cet espace pour discuter un petit peu de qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et c'est dans ce cadre-là en fait que j'ai rencontré donc Patrick. Et très rapidement, dans les discussions qu'on a eues, j'ai entrevu une personnalité, une histoire, une envie aussi de raconter quelque chose qui a fait que le projet sur la médiathèque est tombé à l'eau et qu'on a commencé à travailler sur ce projet-là exclusivement, à se voir tous les deux chaque semaine et à réorienter le projet autour de l'histoire de Patrick et de ce qu'il avait envie de raconter, puisque au départ, du coup, il n'y avait pas de projet écrit, quoi. C'était un peu l'improvisation, et au fur et à mesure, ça s'est pas vraiment écrit sur papier, même si j'essayais d'y réfléchir un petit peu de temps en temps en écrivant, mais j'ai l'impression que ça s'est écrit à travers les discussions et notamment entre nos moments de rencontre, les mails qu'on pouvait s'échanger, et donc je pense que ça s'est écrit à deux en fait dans ces échanges de mails, puisque Patrick amenait des choses dont il avait envie de parler. Moi, quand je l'enregistrais à la suite, je réécoutais, ça me soulevait des questionnements, des interrogations sur lesquelles j'avais envie de revenir. Mais lui proposait aussi, donc c'était dans cet échange-là finalement que cette histoire-là s'est écrite. Et par la suite, évidemment, aussi au montage avec Guizane, puisque je crois que je suis arrivé avec 20 heures de rush, quelque chose comme ça. Donc ça a continué de s'écrire au montage assez fortement.
Oui, c'était une écriture intéressante parce qu'il y avait un tel foisonnement de matière qu'il y avait énormément de choix à faire. Mais je crois que le désir de parler d'amour est venu quand même très très tôt. Enfin, dès ta rencontre avec Patrick, déjà, il y avait quand même cette ligne-là qui s'était dégagée.
C'est vrai que la première discussion que j'avais eue avec Patrick, donc moi j'avais tout un genre de questionnaire un peu autour de la médiathèque, de pourquoi, qu'est-ce que vous faites à la médiathèque, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que... Et une des premières choses qu'il m'a dit, c'est... Donc il m'a fait comprendre qu'il était à la rue, et il m'a amené une phrase en me disant, vous pouvez... Donc on se vous voyait à l'époque. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui peut se passer dans la rue, quand on est dehors tout le temps, dans les relations qu'il peut y avoir avec les gens, à quel point on peut... je ne sais plus comment il me l'avait formulé exactement, mais en gros, c'était... on peut tomber amoureux et tout explose autour. Et puis, ça s'était arrêté là. Il avait bouclé, il avait refermé la porte de ça, mais il m'en avait donné suffisamment pour me donner envie, pour me questionner, pour que ça éveille tout un imaginaire autour de ça et que j'ai envie d'y revenir et voilà, pas sur le moment tout de suite mais la semaine d'après. Voilà.
Et est-ce que tu peux nous raconter un peu en termes de temporalité le projet, combien de temps a duré le tournage, le montage,
Donc le projet initial sur la médiathèque, je l'avais commencé en octobre pour ce qui est du tournage. Il s'est donc terminé en novembre. Et de novembre à mars, j'ai tourné avec Patrick. On a fait les enregistrements pour l'essentiel des voix et des ambiances. Après, on a agrémenté d'ambiances un petit peu additionnelles ou de banques de sons aussi. Et le montage, bah, le montage, on l'a fait dans la foulée de mars à juin.
Oui, c'est ça.
En juin, on a eu donc juin 2018.
Oui.
Là, on a eu une version terminée, mais sur laquelle on a eu des petits soucis de droit d'auteur par rapport à la musique qu'on utilise dans tout le documentaire. Donc bon, on était parti en vacances quand on a eu l'info. Donc c'est Sony qui nous demandait beaucoup d'argent qu'on n'avait pas du tout pour ce type de projet. Donc on a repris le montage en changeant la musique en septembre. Et la musique, l'interprétation étant différente, le rythme, ça changeait quand même beaucoup de choses dans le montage, même si le contenu de la parole restait. Mais le rythme du documentaire changeait pas mal, donc il y avait quand même un gros boulot de remontage à faire.
Ouais, ça, c'est toi qui l'as fait. Après, avec moi, je faisais des retours de temps en temps sur les étapes de travail, tout ça, quand tu avais des moments où tu bloquais un peu. Mais sinon, c'est quand même Julien qui a fait toute cette partie-là de retravail avec la nouvelle musique. Et c'était, c'est fou comme ça a remis tout à plat aussi. Même si la structure de la parole restait la même, rien que le fait de changer l'interprétation de Don Juan, ça, il y avait plein de choses qui étaient à revoir, quoi, ou à des manières de
sur les intensités.
Comment la musique, le rythme de la musique modifie la narration, et comment certains passages de parole prennent une nouvelle dimension ou perdent aussi de l'intensité. Donc c'était tout ce retravail là
selon l'interprétation d'un même opéra en plus,
parce que selon, c'était les mêmes passages de l'opéra, mais le rythme, l'interprétation était différente, donc ça racontait aussi autre chose.
On a écouté plein de versions d'ailleurs pour choisir finalement on a travaillé avec une version qui était vraiment libre de droit mais qui n'était pas de très bonne qualité. Après, on en a écouté plein d'autres. Et c'est vrai qu'on à la fin, on connaissait bien Don Juan.
mais c'est vrai qu'à chaque fois, on avait des versions du documentaire qui étaient différentes, quoi, en fonction du morceau. Ouais.
Je voudrais revenir sur ce que tu disais, que du coup, vous avez démarré avec une idée en tête et puis tu as réorienté le projet. Mais alors, est-ce que c'était dans le cadre d'un travail de commande ou est-ce que c'était toi qui étais... Je veux dire, si c'est un travail de commande, comment ont réagi les commanditaires, puisque tu as eu l'air d'avoir complètement dévié à un moment?
Non, moi je travaille pas vraiment sur un principe de commande sur des projets comme ça. C'est des projets qu'on monte en indépendant, donc de l'écriture. On fait une recherche de financement sur dossier écrit avant de démarrer les tournages. Et sur ce projet-là, en l'occurrence, j'ai eu la chance d'être soutenu par la SCAM avec une bourse qui s'appelle Brouillon d'un rêve.
Tu peux expliquer ce que c'est la SCAM pour les gens qui ne savent pas ?
La SCAM, c'est une société qui gère les droits d'auteur. Donc c'est ce qui correspond à la SACEM pour la partie musicale. Et la SCAM, c'est autour de la notion d'auteur, donc audiovisuel.
Et documentaire.
Spécifiquement documentaire. En radio, audiovisuel, images, texte écrit aussi, il y a des bourses qui correspondent à chaque support. Et la mairie de Toulouse a mis une petite aide aussi financière sur le projet. Et là, c'était l'élu aux bibliothèques.
Ça n'a pas conditionné. Ça n'a pas conditionné ton travail, parce que je me demandais vraiment si c'était une commande justement de bibliothèque, comme ça peut arriver, hein, du coup, de dire travailler autour de l'idée du livre, surtout dans un lieu aussi, aussi marqué que la médiathèque José Cabanis. Mais non, apparemment, donc c'était
non,
pas
non,
ça.
Non, c'était pas une commande. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la SCAM, donc le jury qui s'occupe de cette bourse-là, en général, c'est des gens, en tout cas, qui sont issus de la réalisation, de la production, du milieu documentaire. Donc ils connaissent aussi les réalités qui font qu'à un moment, tu peux être amené à changer de projet, de sujet, d'histoire. Et là, je leur ai envoyé. Ils m'ont dit que tout allait bien, donc il n'y a pas de...
Et comment ça a été pour vous de monter à quatre mains comme ça? Parce que souvent, j'ai l'impression que ça arrive moins ça arrive fréquemment quand même, mais que dans la création sonore, on fasse appel à une personne pour monter, et qu'on monte souvent les projets nous-mêmes. Du coup, est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà vécues chacun
Non, vécu non. Après, je pense que le premier truc qu'on peut dire sur le montage à deux, c'est que c'était nécessaire. Parce que je pense que moi, à la fin du tournage, j'étais aussi dans un état psychologique et assez épuisé. Et je pense que je n'aurais pas pu en faire grand-chose, prendre le recul pour organiser, mettre un petit peu en ordre tout ça. Donc voilà, donc j'ai fait appel à Guizane. Et après, c'est vrai que c'est aussi des choses qu'on discutait. Mais du coup, je vais un peu poser la question de comment est-ce que toi, tu as reçu le projet à ce moment-là
Moi, c'était la première fois en montage sonore que j'étais dans cette position d'accompagner, en fait, d'être monteuse au service de quelqu'un. Au service, c'est peut-être pas la meilleure formulation, mais en tout cas, d'être vraiment un soutien. Et c'était une position que j'ai beaucoup appréciée parce que le fait que ce soit pas mon projet, et c'était beaucoup plus facile de voir les choix clairement qui s'offraient à nous dans ma tête. Alors que sur mes propres projets, c'est quelque chose que je trouve très très difficile. Et étrangement, le fait d'être là et aussi d'être en position d'écoute, où finalement Julien, il me racontait beaucoup ses échanges avec Patrick, comment ça s'était passé. Et il me racontait les rushs avant qu'on les écoute parfois, ou après on débriefait une fois qu'on les avait écoutés. Et tous ces moments d'écoute, c'est comme si je pouvais absorber tout ce qu'il me racontait et puis voir un tout petit peu les différentes lignes dans ma tête que ça pouvait prendre et voir quel choix on pouvait faire. Et j'ai trouvé ça assez... après, des fois, ça buguait, des fois, ça marchait pas. On a repris des passages, on en a jeté. Il y a eu plein d'aléas. Hein, c'était pas du tout un chemin tout tracé, tout droit. Mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment une expérience très riche qui m'apprend pour moi mes propres projets en indépendante, quoi, de réalisation, de création sonore. Et en ça, c'était vraiment chouette. Et puis, dans la manière dont on a travaillé, c'était assez sympa aussi que parfois, tu m'as vraiment laissé complètement la main. Enfin, disons que je savais les rushs qu'il fallait que je monte. Je savais à peu près ce qu'on voulait, mais par contre, derrière l'ordinateur, moi, j'étais toute seule et j'ai passé des journées toute seule à monter des séquences. Et après, tu les écoutais, tu faisais des retours, je remodifiais des choses. Donc, il y avait cette espèce d'aller-retour qui faisait qu'on avançait aussi, qu'on arrivait à sentir qu'il y avait quelque chose qui avançait. Et vu la matière qu'on avait au départ, c'était assez, assez magique.
Oui, du coup, comme il y avait beaucoup de rushs, on a fait un dérushage très précis dès le départ, où là, on était tous les deux. Et à partir de là, du coup, ça nous mettait sur une base commune sur laquelle moi, j'avais pas de difficulté à ne pas être là le jour de... sur des journées
parce
de montage.
Parce que tu savais exactement précisément les rushs. Oui, c'est vrai. C'était tout noté dans un petit carnet très, très épais à la fin.
Il reste une dizaine de minutes à peu près. J'ai envie de proposer aux gens qui ont écouté, s'ils ont des questions, de les poser. Et si c'est pas le cas, on continue. Mais en tout cas, c'est possible de le faire. Si vous avez des choses que vous souhaiteriez savoir autour du projet, vous êtes...
Moi, j'ai une petite question. Du coup, c'est pour avoir discuté. Comment dire ça? En discutant avec des bibliothécaires, depuis quelques années, notamment à Paris, ils me parlent du fait que leur métier change, notamment parce qu'en fait, ils se retrouvent à être de plus en plus à faire l'accueil pour le public des primo-arrivants, le public des gens à la rue, et que c'est une interrogation qui traverse leur métier. Et j'ai vu ça, par exemple, alors c'est tout con, hein. Pourquoi est-ce que c'est vers les bibliothèques qu'on va retrouver ces gens-là? C'est parce qu'il va y avoir un point d'eau, de quoi recharger les portables et être dans une situation de confort où on peut se lâcher, peut-être voir faire une petite sieste en sécurité, enfin voilà. Et du coup, ces gens-là, amis bibliothécaires, me disent aujourd'hui, nous, alors les mieux lotis sont formés par leur direction pour accueillir ces publics-là. Les moins bien lotis se démerdent comme ils peuvent, et j'ai vu ça à Paris, à organiser entre eux des cours d'alphabétisation et de suivi documentaire. Donc, est-ce que c'était une surprise pour toi, cette rencontre, ou est-ce que tu t'y attendais d'un certain côté, parce que c'est le quotidien de la médiathèque José Cabanis?
Non, je peux pas dire que c'était une surprise, parce que sur le projet initial, en allant dans cet espace-là, c'est aussi quelque part ce que je recherchais. Donc non, c'était pas une surprise de rencontrer des personnes vivant à la rue, ou des personnes dans des foyers, ou des personnes âgées aussi qui n'avaient pas, enfin voilà, qui seule chez elle, donc qui venait
rompre un peu la solitude, ça
ouais,
peut être simplement
ouais, dans,
ça.
Dans, ouais. dans cet espace qui finalement est un des seuls lieux gratuits, ouverts au public, où on peut être au chaud et faire, voilà, il y a des livres, il y a des films, il y a la télévision, et après sur place, c'est vrai que c'est tout un questionnement qui est pas évident à gérer pour les bibliothécaires. Il y a une volonté d'accueil inconditionnel, on va dire. Et en même temps, c'est pas forcément des gens qui sont formés aussi pour ça. Donc à des moments, elles sont ou ils sont démunis face à l'accueil, et ils savent pas toujours comment organiser ça. Et ils se retrouvent effectivement souvent un petit peu seuls à gérer ça avec les moyens du bord, en improvisant. Voilà, après je ne veux pas rentrer trop dans le détail de...
Mais est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec eux là-dessus, avec certains bibliothécaires? Est-ce que tu as eu...
Ouais, on en discute. Alors il y a, après c'est un espace de vie au quotidien, donc il y a des usagers, des bibliothécaires qui se lient d'amitié, il y a des usagers entre eux à force de venir qui prennent l'initiative d'organiser des choses. Il y a des horaires avec les tournois d'échecs, des horaires pour, je sais pas, les matchs à la télé, des choses comme ça. Des bibliothécaires qui vont proposer aussi des cours sur l'informatique, sur l'alphabétisation, comme tu le dis, plus ou moins organisés, mais c'est souvent un peu improvisé. Donc c'est assez compliqué à l'intérieur de la médiathèque. C'est source de conflits aussi, je pense, un petit peu, parce qu'il y a une volonté d'accueil, et en même temps, des fois, on sent qu'il n'y a pas forcément les moyens de le faire, les moyens matériels ou les moyens humains, la formation, c'est pas anodin. Donc en effet, ouais, c'est assez délicat, mais en même temps, il y a plein de très belles choses qui se passent entre les gens qui travaillent et les gens qui sont là, parce que ce sont tous les deux ils sont tous les jours là, quoi, quotidiennement, ouais. Donc ils finissent par se connaître, et il y a pas mal de liens aussi qui se créent. Donc,
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose autour du documentaire de Rue d'Amour?
T'as quelque chose à rajouter, Julie?
Non, pas spécialement. Enfin, non, je voulais remercier le Festival Bandi et Radio Onde Courte. Annoncer que le documentaire sera diffusé peut-être à... Alors, c'est pas à Toulouse pour l'instant, mais à Nantes le 8 juin dans le cadre de Oscillation, un festival autour du son qui se passe sur des péniches. Et à Paris du 12 au 14 juin dans le festival Les Yeux Ouverts, un festival de documentaires assez récent. Et voilà, j'invite les gens à découvrir un petit peu tout ce qui se fait en son, parce que c'est vrai qu'il y a peu d'espace de diffusion, mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, et que c'est une expérience différente de ce qu'on peut connaître aussi avec un peu plus avec l'image. Et donc voilà, je trouve ça super que ça puisse exister ici à Bandi.
Oui, puis moi, juste ajouter qu'après ce long processus de fabrication, et ça va être un grand plaisir de pouvoir le faire écouter et d'avoir des retours. Et c'est, voilà, je suis très contente d'avoir pu être là pour cette discussion.
Bah nous aussi, on est très contents.
Merci à vous. Et donc, bonne diffusion de Rue et d'Amour, puisqu'on comprend qu'en fin de compte, vous commencez à le présenter, à le diffuser après un long travail. Okay,
ouais,
c'est la deuxième,
ouais,
non?
Tout à fait. C'est là, oui, parce que la première était un petit peu en privé.
Oui, la troisième. Ouais.
Ah ouais, mais il va y avoir d'autres diffusions aussi sur Toulouse. Et voilà. Et je vous invite aussi à suivre le collectif La Disquette, auquel on fait partie, et peut-être pour suivre les infos et pour suivre les autres créations des membres du collectif. Il y a plein de choses qui se préparent.
Super, merci beaucoup.
Merci. Et là, on va enchaîner avec une séance d'écoute. Donc c'est à 16h30, il y aura une autre conversation autour de la création radiophonique en collectif, et on accueillera donc deux collectifs, Bras Zéro, qui ont une émission sur Canal Sud tous les lundis soirs, et Les Menstruels, qui diffusent un peu partout, tout le temps, sur pas mal de radios associatives en France. Et là, on fait une petite séance d'écoute de passage de l'émission, des deux émissions, et on se retrouve après pour en parler.